vu s'entrebâiller l'univers sombre où les planètes noires roulent sans but, où elles roulent sans rien savoir de leur horreur, sans rien savoir ni d'un éclat ni d'un nom. Howard Phillips Lovecraft, Némésis, 1917. Les chercheurs précautionneux hésiteront à contredire la croyance commune qui veut que Robert Blake ait été tué par la foudre ou par quelque choc nerveux profond venant d'une décharge électrique. Il est vrai que la fenêtre à laquelle il faisait face n'était en rien brisée, mais la nature s'est montrée capable de tours beaucoup plus insolites. L'expression de son visage a pu facilement être causée par quelque obscure cause musculaire sans relation à ce qu'il voyait, et les notes de son journal sont clairement le résultat d'une imagination fantastique, excitée par certaines des superstitions locales et par quelques-uns des anciens faits dont il prit connaissance. De même encore, pour ses observations anormales concernant l'église désertée sur la colline parlementaire, l'analyste astucieux ne mettra pas longtemps à les attribuer à quelques charlatanerie, consciente ou inconsciente, avec lesquelles, pour partie au moins, Blake était secrètement relié. Parce que, après tout, la victime était un écrivain et un peintre, définitivement voué au champ des mythes, rêves, terreurs, superstitions, et à une recherche passionnée de scènes et d'effets de la sorte la plus bizarre ou spectrale. Son précédent séjour dans la ville, une visite à un étrange vieil homme aussi profondément impliqué dans l'occulte et les coutumes interdites que lui, s'était terminée dans la mort et les flammes, et seul l'instinct morbide avait pu le ramener ici depuis chez lui, à Milwaukee. Il avait dû connaître ces vieilles histoires, quoi qu'en disent les notes de son journal, et sa mort a peut-être étouffé dans l'œuf un sensationnel canular destiné à devenir réflexion littéraire. Cependant, parmi ceux qui avaient examiné et corrélé toutes ces évidences, il en restait plusieurs à s'accorder sur des théories moins rationnelles ou banales. Cela inclinait à prendre la plus grande partie du journal de Blake pour argent comptant et relevait plusieurs faits particulièrement signifiants, tels que l'indubitable authenticité de ce qu'il consigne quant à la vieille église, l'existence avérée, haïe et non orthodoxe de la secte Sagesse étoilée avant 1877, la disparition actée d'un reporter nommé Edwin M. Lillibridge en 1893 et, par-dessus tout, l'évidence sur le visage transfiguré du jeune écrivain, à sa mort, d'une peur monstrueuse. C'est quelqu'un de cette opinion qui, poussé à une extrémité fanatique, partit jeter dans la baie cette pierre si curieusement taillée, dans son étui de métal si curieusement ouvragé et orné, qu'on trouva dans le clocher de la vieille église, le clocher noir aveugle, et non pas la tour où le journal de Blake les positionne initialement. Même largement censuré, aussi bien officiellement qu'officieusement, cet homme, un médecin réputé familier du bizarre et de son folklore, déclara avoir voulu débarrasser la terre de quelque chose de trop dangereux pour ne pas s'en préoccuper. Entre ces deux écoles, on laissera l'opinion du lecteur trancher par elle-même. Les journaux ont donné des détails tangibles de leur point de vue sceptique, laissant aux oubliettes le schéma de ce que Blake dressait de ce qu'il avait vu, ou pensait avoir vu, ou prétendait avoir vu. Maintenant, à étudier son journal de près, hors de toute passion, avec tout le loisir pour le faire, reprenons cette sombre chaîne d'événements depuis le point de vue expressément formulé par leur principal acteur. Le jeune Blake revint à Providence dans l'hiver 1934-1935, louant l'étage supérieur d'une maison vénérable qui donne sur une ruelle herbeuse derrière College Street, sur la crête côté est de la colline jouxtant le campus de l'université Brown, à côté des murs de marbre de la bibliothèque John Hay. C'était un coin ancien, confortable et attachant, dans cette petite oasis de jardin qui en faisait presque un village, et où des chats gigantesques et familiers se réchauffaient au soleil sur la toiture des remises. Les maisons, style régence, sur la place, avaient des toits à lanterneaux, une sculpture en éventail au-dessus de la porte, des fenêtres à petits carreaux, et toutes les autres marques de l'artisanat début 19e. À l'intérieur, des portes à 6 panneaux, des planchers à larges lattes, un escalier colonial recourbé, des manteaux de cheminée blancs période Adam, et à l'arrière une série de pièces, 3 marches sous le niveau d'ensemble. Le bureau de Blake, une grande chambre au sud-ouest, donnait sur le jardin de devant par un côté, tandis que les fenêtres côté ouest et son bureau devant l'une d'elles, tournant le dos au sommet de la colline, lui offraient une vue splendide des toits déployés de la basse ville et du coucher de soleil qui par-delà les enflammait de façon mystique. Au lointain, l'horizon se confondait avec les pentes pourpres de la vaste campagne. Devant lui, à 3 kilomètres à peu près, le mamelon fantomatique de la colline parlementaire se hérissait parmi les toits et les clochers compacts, dont l'arrangement semblait au loin onduler mystérieusement, prenant des formes fantastiques quand le tourbillon des fumées de la ville s'y empêtrait. Blake avait alors la curieuse conscience de regarder une sorte de monde éthéré et inconnu, qui pourrait ou pas s'évanouir s'il partait à sa recherche ou tentait de s'y introduire. S'étant fait expédier la plus grande partie de ses livres, Blake acheta du mobilier ancien assorti à son logement et s'installa pour peindre et écrire, vivant seul et se chargeant lui-même du ménage très simple. Son atelier était une pièce côté nord, où les vitres du lanterneau lui offraient un éclairage magnifique. Pendant ce premier hiver, il produisit 5 de ses nouvelles les plus connues, « Le fouisseur de terrier »,« L'escalier dans la crypte »,« Chagai », »,« Dans la vallée de Pnat » et « Le banquet des étoiles », et acheva 7 toiles, des études de monstres inhumains et sans nom, ainsi que des paysages mystérieusement étrangers, extraterrestres. Au coucher du soleil, il s'asseyait volontiers à sa table et regardait rêveusement ce déploiement à l'ouest, les tours sombres du Memorial Hall, juste dessous, le beffroi roi George du tribunal, les nobles escarpements du centre-ville, et au lointain ce monticule chatoyant couronné de flèches, dont les rues inconnues et le labyrinthe des toits provoquaient son imagination. Des gens qu'il connaissait ici, il avait appris que cette élévation distante était le vaste quartier italien, même si la plupart des maisons étaient les vestiges des jours de leurs premiers occupants américains et irlandais. De temps en temps, il saisissait ses jumelles et explorait ce monde fantomatique et inatteignable au-delà des volutes de fumée, se focalisant sur quelques toits, cheminées ou clochers singuliers, et spéculant sur les mystères, bizarreries et curiosités qu'il pouvait abriter. Même avec son instrument optique, la colline parlementaire gardait quelque chose de hors du monde, un peu fabuleux, et relié aux merveilles irréelles et intangibles des propres nouvelles et tableaux de Blake. Et le sentiment s'en prolongeait longtemps après que la colline s'était évanouie dans son crépuscule violet, semé de lampes, et que l'éclairage du tribunal, ainsi que les rouges balises lumineuses sur l'immeuble de l'Industrial Trust, se soient embrasées pour rendre à la nuit son fantastique. De ce qu'il apercevait sur la colline parlementaire, ce qui fascinait Blake au-delà de tout le reste, c'était une certaine église, énorme et sombre. Elle en émergeait avec une netteté bien spéciale à certains moments du jour, et au crépuscule, sa grande tour et son clocher effilé se détachaient sombrement contre le ciel enflammé. On l'aurait dit construite sur un escarpement plus élevé, sa façade crasseuse, qui l'entrevoyait obliquement du côté nord, avec son toit en pente et le sommet pointu de ses ogives, surgissait brutalement de l'enchevêtrement des faîtières et conduits de cheminées environnants. Particulièrement sale et austère, on l'aurait dit construite d'une pierre à la fois noircie et délavée par plus d'un siècle de fumée et d'intempéries. Le style, pour autant que l'instrument optique en rendait compte, était une de ces premières expériences du retour au gothique qui avait précédé les églises plus majestueuses de Richard John, mais gardait quelques-unes des lignes et proportions du temps du roi George, ce qui l'aurait daté d'entre 1810 et 1815. Comme les mois passaient, Blake en contemplait l'architecture lointaine et interdite avec un intérêt bizarrement grandissant. Parce que les grandes ogives n'en étaient jamais éclairées, il comprit qu'elles devaient être vides. Plus il regardait, plus son imagination travaillait, et bien évidemment, il commença à se figurer d'étranges choses. Pour lui, une telle vague et singulière aura de désolation flottait sur l'ensemble que même les pigeons et hirondelles se tenaient à l'écart de ses avant-toits noircis. Autour des autres tours et beffrois qu'il observait avec ses jumelles, il constatait des essaims d'oiseaux qui, d'ici, n'approchaient jamais. Du moins, c'est ce qu'il se mit à penser, et il le nota ainsi dans son journal. Il en montra l'emplacement à plusieurs de ses amis, mais aucun d'eux pour être allé sur la colline parlementaire ou disposer de la moindre notion de ce qu'était ou avait été cette église. Au printemps, Blake en fut saisi d'une profonde impatience. Il avait commencé un roman prévu de longtemps, basé sur les survivances supposées de la sorcellerie dans l'état du Maine, mais restait incapable d'en faire la moindre avancée. De plus en plus, il s'asseyait simplement à sa table côté ouest et observait la colline au loin, avec ce clocher sombre et renfrogné mis au banc par les oiseaux. Quand les premières feuilles apparurent délicatement dans les rameaux du jardin et que la nature se remplit d'une beauté neuve, l'agitation de Blake continua de grandir. C'est alors qu'il eut pour la première fois l'idée de traverser la ville et de grimper par lui-même cette pente fabuleuse qui l'emmènerait dans ce monde de rêves noyé de fumée. Tout à la fin d'avril, juste avant la nuit de Valpurgis assombrie depuis l'éternité, Blake fit sa première excursion dans l'inconnu. Remontant peineusement les rues sans fin du centre-ville, puis ces zones mornes et délabrées qui s'y ajoutaient, il atteignit cette avenue qui grimpait, usée par un siècle de voitures, parmi les porches doriques affaissées et les coupoles aux vitres voilées, et qui lui semblait mener à un monde connu de longtemps mais impossible à rejoindre, par-delà la brume. Il y avait dans la rue des plaques miteuses en blanc et bleu qui ne signifiaient rien pour lui, et maintenant il remarquait les visages étranges et bistres de la foule dérivante, et d'autres signes étrangers sur ces curieuses boutiques au bas des immeubles marrons délavés par les intempéries. Nulle part il ne reconnaissait les détails qu'il avait observés de loin, et une fois de plus il imagina à moitié que la colline parlementaire, telle qu'il l'avait vue à distance, était un monde de rêve qui n'avait pas à être foulé par les pieds des vivants. De temps en temps, il découvrait une façade d'église délabrée ou les ruines d'une flèche, mais jamais les contreforts noirs qu'il cherchait. Quand il s'enquit de la grande église de pierre noircie auprès d'un boutiquier, l'homme sourit et secoua la tête, alors qu'en fait il parlait anglais parfaitement. À mesure que Blake grimpait, le quartier lui semblait de plus en plus étrange, un dédale déroutant d'allées maussades conduisant éternellement vers le sud. Il traversa deux ou trois grandes avenues et pensa à ce moment reconnaître une tour familière. À nouveau, il demanda à un commerçant où se trouvait telle massive église de pierre, et cette fois il aurait pu jurer que l'ignorance invoquée était feinte. l'homme au visage bistre ne put retenir une expression de peur qu'il essaya de cacher, et Blake le vit ébaucher un curieux signe de la main droite. Alors, brusquement, la flèche aveugle avait surgi à sa gauche, contre le ciel nuageux, au-dessus des étagements de toit dans l'enchevêtrement des allées orientées vers le sud. Blake sut de suite ce que c'était et s'enfonça à travers ces ignobles ruelles non pavées qui dévalaient vers l'avenue. Deux fois il perdit son chemin, mais il préférait ne plus rien demander aux vieux ou aux ménagères qui étaient assis sur le pas de leur porte, et encore moins à un des enfants qui jouait et criait dans la boue des ruelles obscures. Enfin, il vit la tour en plein côté sud-ouest, et une gigantesque masse de pierre s'éleva sombrement tout au bout d'une des rues. Maintenant, il se trouvait sur une place balayée par le vent, bizarrement pavée, avec un haut mur sur le côté opposé. C'était le terme de sa quête. Au-dessus du large terre-plein herbeux, rembardé de fer que supportait le mur, un monde à part, plus étroit, à 6 pieds au-dessus des rues environnantes, s'élevait la coupole titanesque et sinistre qui, malgré le changement de perspective, était sans équivoque celle que cherchait Blake. L'église vide était dans un grand état de décrépitude. Quelques-unes des pierres des hauts contreforts étaient tombées, et bien de ces fins éléments de faîtage parsemaient les ronces et herbes négligées, à moitié perdues. Les ogives gothiques, noires de suie, étaient pour la plupart intactes, malgré les meneaux souvent brisés. Blake se demanda comment ces vitraux obscurément peints avaient pu ainsi survivre, à portée de ce qu'il savait des habitudes des gamins partout au monde. Les portes massives étaient indemnes et parfaitement closes. Tout autour du remblai, entourant complètement le terre-plein, une barrière de fer rouillée dont le portail, en haut d'une volée de marches au-dessus de la place, était visiblement cadenassé. Le chemin du portail à l'église était littéralement envahi de ronces. La désolation et la décrépitude étaient accrochées comme un voile au-dessus de la place, et dans ces murs dénudés aux auvents sans oiseaux, Blake perçut le sceau d'un vague sinistre au-delà de son pouvoir de compréhension. Il n'y avait que très peu de gens sur la place, mais Blake vit un policier à l'extrémité nord et s'approcha de lui avec des questions sur l'église. C'était un grand Irlandais de bon caractère, et cela sembla bien bizarre qu'il ne puisse à peine faire plus qu'un signe de croix, et bredouiller qu'ici les gens n'en parlaient jamais. Quand Blake insista, il répondit avec précipitation que les prêtres italiens avaient mis tout le monde en garde à son propos, assurant qu'un démon monstrueux s'était une fois hébergé là et y avait laissé sa marque. Lui-même avait entendu son père rapporter de sombres rumeurs qui lui rappelaient d'autres bruits et histoires de son enfance. Il y avait eu une secte néfaste dans ces vieux temps, une secte hors la loi qui pratiquait d'affreuses choses depuis quelques fonds inconnus de la nuit. Il avait fallu un prêtre d'excellence pour exorciser ce qui s'était passé, mais ceux qui y avaient participé disaient que c'était principalement la lumière qui y parvenait. Le père O'Malley vivait encore et aurait eu beaucoup de choses à en dire. Mais maintenant, il n'y avait rien à faire, sinon laisser tout cela comme c'était. Cela ne gênait plus personne maintenant, et ceux qui en avaient été les propriétaires étaient morts ou partis loin. Ils s'étaient enfuis comme des rats après les menaces verbales des années 1877, quand on commença de se préoccuper de pourquoi des gens disparaissaient ça et là dans le voisinage. Un jour, la ville y entrerait et en prendrait possession, faute d'héritier, mais rien de bon n'arriverait à quiconque y toucherait. Autant la laisser s'effondrer avec les années, plutôt que d'agiter des choses toujours dont il valait mieux qu'elles reposent dans leurs sombres secrets. Après le départ du policier, Blake resta à regarder le clocher menaçant. Cela l'excitait de découvrir que l'ensemble paraissait aussi sinistre aux autres qu'à lui-même, et il se demandait quel grain de vérité pouvait dormir dans les vieux contes que l'homme à l'uniforme bleu lui avait transmis. Probablement, bien des légendes avaient dû naître de l'apparence diabolique du lieu, mais même ainsi, cela lui sembla une étrange transposition dans le réel d'une de ses propres histoires. Le soleil de l'après-midi reparut derrière des nuages dispersés, mais semblait incapable d'éclairer les murs tachés de suie du vieux temple qui dominait l'élévation, et bizarre, comme la verdeur du printemps n'avait pas rejoint la végétation sombre et flétrie qui poussait dans la cour en surplomb, derrière sa rambarde de fer. Blake se retrouva tout auprès du surplomb, examinant le mur de fondation et la clôture rouillée pour de possibles moyens d'entrée. À l'attraction de cette étendue sombre, il ne savait plus résister. La grille ne pouvait être ouverte au niveau des marches, mais côté nord, il manquait des barres. Une fois en haut des marches, il suivit l'étroit rebord au long de la grille jusqu'à la brèche. Si les gens craignaient aussi visiblement l'endroit, il ne rencontrerait pas d'obstacle. Il était sur ce rebord et presque déjà à l'intérieur de la grille avant que quiconque le remarque. Alors, regardant en bas, il vit quelques personnes sur la place s'éloigner craintivement et faire de la main droite le même signe qu'il avait vu faire au boutiquier de l'avenue. Plusieurs fenêtres se refermèrent en claquant, et une femme obèse se précipita dans la rue et enferma ses tout petits enfants dans une maison branlante et sans peinture. La brèche dans la grille était vraiment facile à traverser, et déjà Blake se frayait chemin dans l'enchevêtrement pourrissant de la cour déserte. Ici et là, le moignon usé d'une pierre tombale lui rappelait qu'on y avait enterré des gens. Mais à ce qu'il constatait, ça avait dû être il y a très longtemps. La masse à pic de l'église se faisait oppressante, maintenant qu'il en était si près, mais il surmonta sa répulsion et s'approcha des trois grandes portes de la façade. Tout étant sérieusement cadenassé, il entama le tour du bâtiment cyclopéen en quête d'une ouverture secondaire qui aurait été oubliée. Et même maintenant, alors qu'il n'était pas encore sûr de son envie de pénétrer ce repère de nuit et d'abandon, son étrangeté l'y attirait automatiquement. Le soupirail bâillant et sans protection d'une cave à l'arrière fournit le passage désiré. En s'y glissant, Blake aperçut sous terre un univers de toiles d'araignées et de poussière faiblement éclairées par les rayons du soleil déclinant à l'ouest. Des débris, vieux tonneaux, caisses brisées et mobiliers de toutes sortes vinrent sous ses yeux, tout cela recouvert pourtant du linceul d'une poussière qui en mêlait les angles et contours. Les restes rouillés d'un fourneau de plein air confirmaient que le bâtiment avait été utilisé et maintenu en état jusqu'à la bonne moitié de l'époque victorienne. Agissant comme en dehors de son initiative consciente, Blake rampa dans l'ouverture et se laissa glisser jusqu'au sol de ciment couvert de débris et d'un tapis de poussière. La cave voûtée était grande et d'un seul bloc. Dans un coin, loin sur la droite, perdu dans l'ombre plus profonde, il remarqua une arche voûtée qui, d'évidence, le mènerait plus haut. Maintenant qu'il était à l'intérieur du grand bâtiment spectral, il ressentait à nouveau ce sentiment particulier d'oppression qu'il s'efforça de surmonter tandis qu'il commençait son exploration, extrayant d'abord un barreau encore intact de la saleté et l'emboîtant dans le soupirail ouvert pour s'assurer le repli. Puis, s'encourageant lui-même, il s'engagea dans cette vaste cave où les toiles d'araignées tendaient leurs festons sous les arches. Étouffé à moitié par la poussière omniprésente, et recouvert de ses fins filaments, il rejoignit puis commença de grimper les marches vermoulues qui s'élevaient dans le noir. il n'avait pas de lumière et tâtait avec précaution de ses mains. Après un coup d'aigu, il tomba sur une porte fermée, mais en farfouillant, il devina l'ancien loquet. Elle s'ouvrit vers l'intérieur, et au-delà, il découvrit un corridor à peine éclairé bordé de panneaux de bois mangés au vert. Maintenant au rez-de-chaussée, Blake en fit le tour d'une façon rapide. Toutes les portes intérieures étaient ouvertes, et il put passer rapidement de pièce en pièce. La nef colossale était un espace maintenant dévasté, avec des amoncellements et montagnes de poussière sur ses bancs à caissons, autels, chairs et cœurs, et des enchevêtrements titanesques de toiles d'araignées tendues sous les ogives de la galerie et s'entrelaçant sous les colonnes gothiques du cloître. Sur toute cette désolation silencieuse jouait une lumière sans source visible, alors que le soleil de fin d'après-midi lançait ses rayons déclinants à travers les étranges panneaux mi-obstrués des grandes baies de l'abside. Les figures sur ces fenêtres étaient si obscurcies par la suie que Blake n'aurait pu qu'à peine déchiffrer ce qu'elles représentaient, mais le peu qu'il en comprit le persuada qu'il ne les goûterait pas. Les motifs en étaient très conventionnels, et sa connaissance du symbolisme mystique lui révélait qu'ils appartenaient à son ancienne et obscure histoire. L'expression affichée par les quelques saints représentés ouvrait vraiment à la critique, tandis qu'une des baies semblait montrer un espace obscur semé de spirales d'une étrange luminosité diffuse. Se détournant de l'abside, Blake remarqua que, sous ses toiles d'araignée, la croix au-dessus de l'autel n'était pas de la forme habituelle, mais ressemblait à cet ankh primordial, ou crux ansata de l'Égypte obscure. Dans une arrière-sacristie donnant sur l'abside, Blake trouva un pupitre bancal et des étagères montant au plafond remplies de livres moisis et mi-désintégrés. C'est à ce moment qu'il reçut pour la première fois positivement le choc d'une horreur objective, tant les titres de ses livres lui parlaient. Ici étaient conservées les phrases noires et interdites dont la plupart des gens saints n'avaient jamais entendu parler, ou seulement d'une façon furtive, en chuchotements effrayés. Le dépôt banni et redouté de secrets équivoques et de formules immémoriales qui s'étaient comme égouttés du fuseau du temps depuis les jours des premiers hommes et les jours imprécis et fabuleux d'avant que l'homme paraisse. Lui-même avait lu bien d'entre eux une version latine du Necronomicon aboré, le sinistre Liber Ivonis, les Unaus Preschlichen Kulten de von Jungst, et l'infernal et vieux livre de Ludwig Prin, De Vermis Mysteriis. Mais il y en avait d'autres qu'il connaissait à peine de réputation ou pas du tout. Les manuscrits d'Hypnacotique, le livre de Zian, et s'y émiettait un volume en caractères absolument non identifiables, mais où l'apprenti occultiste reconnaissait en frissonnant certains symboles et diagrammes. Clairement, la rumeur persistante à propos du lieu ne mentait pas. Ce lieu avait été autrefois le siège d'un démon plus ancien que l'humanité et plus vaste que l'univers connu. Sur un pupitre désaffecté, il trouva un petit registre relié de cuir dont les entrées étaient remplies selon un étrange code cryptographique. Cette écriture manuscrite reprenait les habituels symboles traditionnels, ceux qu'utilise aujourd'hui l'astronomie et autrefois l'alchimie, l'astrologie et autres arts douteux, les courses du soleil, de la lune, les aspects des planètes et les signes du zodiaque, ici condensés en pages de texte compacts, avec des divisions et des paragraphes qui suggéraient que chaque symbole répondait à une des lettres alphabétiques. Avec l'idée de résoudre plus tard ce cryptogramme, Blake empocha le registre dans son manteau. Beaucoup des grands volumes des étagères le fascinaient indiciblement, et il eut la tentation de revenir plus tard en emprunter quelques-uns. Il se demandait comment ils avaient pu rester abandonnés si longtemps. était-il le premier à surmonter la peur envahissante et engluante qui, pendant presque 60 ans, avait éloigné tout visiteur de ce lieu déserté? Ayant maintenant parcouru à peu près le rez-de-chaussée, Blake s'enfonça à nouveau dans la poussière de la nef spectrale jusqu'au vestibule d'entrée, où il avait vu une porte et un escalier qui pourraient probablement le mener à la tour aveugle et à ce clocher qui lui était devenu si familier à distance. Y monter fut une expérience suffocante, tant la poussière était épaisse, et les araignées pires que partout dans cet espace restreint. L'escalier était en spirale, avec de hautes et étroites marches de bois, et par-ci par-là, Blake longeait une lucarne donnant vertigineusement sur les brouillards de la ville. Bien qu'il n'ait pas vu pendre de corde, il s'attendait à trouver une cloche ou un carillon de cloche dans la tour dont si souvent il avait étudié les ogives et meneaux à travers ses jumelles. Mais il fut condamné au désappointement. Quand il atteignit le haut de l'escalier, pas de carillon dans la chambre du haut de la tour, clairement voué à des projets bien différents. La pièce, d'environ 15 pieds carrés, était éclairée faiblement par 4 fenêtres à ogives, une sur chaque face, leurs vitres en deçà des persiennes délabrées. Elles avaient été aveuglées par d'épais paravents opaques, mais les derniers avaient largement fini de pourrir. Au milieu du plancher, sous son tapis de poussière, s'élevait un pilier de pierre aux angles curieux, 4 pieds de haut et 2 de diamètre moyen, recouverts de chaque côté de hiéroglyphes bizarres et grossièrement incisés, parfaitement indéchiffrables. Et sur le pilier, un étui de métal singulièrement asymétrique, son couvercle à charnière rejetée en arrière, et à l'intérieur ce qui ressemblait, sous un siècle de poussière, à un objet vaguement sphérique ou ovoïde d'environ 4 pouces. Tout autour du pilier, dans un cercle approximatif, 7 de ces chaises gothiques à haut dossier, encore quasi intactes, et derrière elles, appliquées au long des boiseries sombres du mur, 7 images colossales de plâtre peintes en noir, prêtes à s'effriter, ressemblant plus qu'à quoi que ce soit d'autre à la sculpture cryptique des mystérieux mégalithes de l'île de Pâques. Dans un recoin de la salle aux toiles d'araignée, une échelle était taillée à même le mur, grimpant vers une trappe fermée du clocher sans fenêtre qui la surplombait. À mesure que Blake s'habituait au manque de lumière, il remarqua de singuliers bas-reliefs sur l'étrange étui ouvert de métal jauni. S'approchant, il tenta d'essuyer la poussière de ses mains et de son mouchoir, et vit que les figures étaient monstrueusement et totalement d'une espèce étrangère. Les entités qui y étaient peintes semblaient vivre, et ne relevaient d'aucune ressemblance à nulle espèce vivante connue qui avait pu évoluer sur notre planète. La sphère ovoïde de 4 pouces se révélait être un polyèdre presque noir, strié de rouge, avec de nombreuses parties planes irrégulières. Plutôt un remarquable cristal d'espèce à définir, ou un minéral artificiellement sculpté et finement poli. Il ne touchait pas le fond de l'étui, mais y était suspendu, au moyen d'une bande de métal sous son centre, avec 7 supports bizarrement conçus reliés horizontalement aux angles et parois de l'étui à son sommet. Cette pierre, ainsi exposée, exerçait sur Blake une fascination alarmante. À peine s'il pouvait en détourner les yeux, et comme il en examinait les surfaces miroitantes, il avait l'impression de les voir transparentes, recelant des mondes merveilleux quoique mi-formés à l'intérieur. Et dans son esprit flottaient des images de globes d'autres mondes, avec d'énormes tours de pierre, ou des mondes aux montagnes de titans et sans marque de vie, et encore des espaces plus lointains qui n'étaient qu'un frémissement dans la vague obscurité d'une présence conscience et volonté. Quand il s'en détourna, ce fut pour remarquer un amas singulier de débris dans le coin le plus éloigné, près de l'échelle du clocher. Pourquoi cela requit son attention, il n'aurait su le dire, mais quelque chose dans cette poussière avait transmis un message à son subconscient. S'en approchant et brossant à peu près les toiles d'araignée qui pendaient, il y discernait quelque chose de sinistre. La main et le mouchoir révélèrent bientôt la vérité, et Blake en eut le souffle coupé d'un mélange déconcertant d'émotions. C'était un squelette humain qui devait être là depuis bien longtemps. Les habits tombaient en lambeaux, et quelques boutons et morceaux indiquaient un costume d'homme, initialement gris. Il y avait d'autres preuves, chaussures, broches de métal, gros boutons de manchette, épingles de cravate sans plus rien à retenir, un laissez-passer au nom du vieux télégramme de Providence, et un portefeuille prêt à s'effriter. Blake se saisit de ce dernier avec précaution, en extrayant plusieurs factures devenues de vraies antiquités, un calendrier publicitaire de celluloïdes datant de 1893, un jeu de cartes de visite au nom d'Edwin M. Lillibridge, et une feuille couverte de notes à la plume. La feuille était comme un puzzle à reconstruire, et Blake la lut soigneusement à la sombre fenêtre de l'ouest. Le texte dépareillé comportait des phrases telles que celle-ci. Prof. Enoch Bowen quitte Égypte mai 1844. Achète la vieille église de la libre volonté en juillet. Son travail archéologique et ses études d'occultisme bien connues. Dr. Drown de la 4e Baptiste met en garde la sagesse étoilée dans son sermon le 29 décembre 1844. Congrégation de 97 à la fin de 45. 1846, trois disparitions. Première mention du trapézoédron rayonnant. Sept disparitions 1848. Rumeur de sacrifice sanglant commence. Enquête de 1853 ne donne rien. Rumeur de frottement bizarre. Le père O'Malley parle d'adoration diabolique d'un coffre trouvé dans les ruines de la vieille Égypte. Dit qu'ils évoquent quelque chose qui ne peut exister à la lumière. Fuit à peu de lumière, disparaît par forte lumière. Puis doit être convoqué à nouveau. A probablement été mise au courant par la confession sur son lit de mort de Francis X. Finney, qui avait rejoint la sagesse étoilée en 49. Ils disent que le trapézoédron rayonnant leur fait apparaître le ciel et d'autres mondes, et que celui qui hante la nuit leur en donne les secrets. Histoire d'Orin B. Eddy, 1857. Ils la convoquent en regardant à travers le cristal et ont un langage secret de leur invention. 200 ou plus dans la congrégation 1863, uniquement des hommes. Émeute des gaz irlandais en 1869, après la disparition de Patrick Regan. Allusion voilée dans le journal, 14 mars 72. Mais personne n'en parle. Six disparitions 1876. Un comité secret constitué par le maire Doyle. Action décrétée février 1877. L'église fermée en avril. Bande de ceux de la colline fédérale menace Drown et les paroissiens en mai. 181 personnes quittent la ville fin 77, aucun nom mentionné. Histoire de fantômes commence vers 1880. essaye d'attester qu'aucun être humain n'est entré dans l'église depuis 1877. Demandez à Lanigan les photographies prises en 1851. Replaçant le papier dans le portefeuille et l'empochant dans son manteau, Blake revint au squelette sous la poussière. Les allégations des notes étaient claires et ne laissaient aucun doute sur le fait que l'homme était entré dans l'édifice désert il y a 42 ans, en quête d'un papier à sensation pour son journal, quête que personne avant lui n'avait été assez intrépide pour tenter. Peut-être que personne d'autre que lui ne savait son intention, qui pourrait le dire? Mais il n'était jamais revenu à son journal. Est-ce que la peur qu'il avait bravement surmontée en venant ici avait soudain débordé et provoqué une attaque cardiaque? Blake se baissa sur ce qui miroitait des eaux et remarqua leur état singulier. Quelques-uns d'entre eux étaient violemment dispersés, et quelques-uns semblaient étrangement rongés à leur extrémité. D'autres avaient bizarrement jauni, donnant l'impression approximative d'une carbonisation. Carbonisation qui semblait manifeste aussi sur certains fragments de vêtements. Le crâne était vraiment dans un drôle d'état, une minéralisation jaune, avec une ouverture carbonisée à son sommet comme si un acide puissant avait mangé la paroi solide de l'os. Ce qui était arrivé au squelette pendant ces 40 ans d'ensevelissement silencieux, impossible à Blake de l'imaginer. Avant qu'il s'en aperçoive, il était à nouveau devant la pierre, laissant sa curieuse influence provoquer ce déploiement nébuleux dans son esprit. Il voyait des processions de figures voilées, encapuchonnées dont les formes n'étaient pas humaines, tandis que surgissaient des lieux et des lieux sans fin d'étendues désertiques, avec des monolithes sculptés qui rejoignaient le ciel. Il vit des tours et des murs dans les profondeurs sépulcrales de la mer, et des tourbillons d'espace où des volutes de vapeur noire flottaient devant de fins chatoiements de froide brume pourpre. Et par-delà l'ensemble, c'était l'abîme infini de la nuit, où les formes solides ou demi-solides n'étaient perceptibles que par la vibration de leur sillage, et l'assemblage nuageux de forces qui semblait tendre à imposer l'ordre au chaos, et bâtir une clé pour tous les paradoxes et arcanes des mots que nous connaissons. Alors à nouveau un accès de peur panique, sourde et insidieuse, brisa le sortilège. Blake, suffoquant, se détourna de la pierre, conscient d'une présence étrangère et sans forme venue près de lui et le surveillant dans une intention horrible. Il se sentait enchevêtré dans quelque chose qui n'était pas dans la pierre, mais qui, à travers elle, l'avait regardé, quelque chose qui pourrait le suivre désormais sans cesse avec une connaissance qui débordait la vue physique. Manifestement, l'endroit jouait sur ses nerfs, ou le seul fait d'être en vue de sa découverte épouvantable. De plus, la lumière s'évanouissait, et comme il n'avait rien pour s'éclairer lui-même, il comprit qu'il avait à partir tout de suite. Ce fut à ce moment, dans l'extrême fin du jour, qu'il pensa avoir vu cette faible trace de luminosité dans la pierre aux facettes folles. Il avait essayé de ne plus la regarder, mais une sorte de compulsion obscure y ramenait ses yeux. Est-ce que c'était la phosphorescence subtile de la radioactivité de son minerai? Et qu'est-ce que les notes de l'homme mort disaient à propos du trapézoédron rayonnant? Enfin, pourquoi ce repère abandonné de diabolisation cosmique? Ils avaient fait quoi ici? Et qu'est-ce qui pouvait encore le guetter dans ce lieu banni même des oiseaux? Maintenant, c'était comme si une indéfinissable sensation de pourri grandissait tout auprès, et qu'il ne pouvait en déceler la source. Blake attrapa le couvercle de l'étui oblong et le referma brusquement. Il coulissa facilement sur ses charnières de métal inconnu, se refermant définitivement sur la pierre maintenant indubitablement rayonnante. Comme pour prolonger le claquement aigu du couvercle, un frottement continu et frissonnant sembla provenir du clocher au-dessus, dans son obscurité éternelle. Des rats, bien sûr, des rats, la seule espèce vivante à révéler sa présence dans cette tour maudite depuis qu'il y était entré. Et maintenant que ses raclements dans le clocher l'effrayaient horriblement, il plongea comme un sauvage au bas de l'escalier en spirale, puis à travers la nef et ses fantômes, enfin dans la cave voûtée, retrouvant le crépuscule faiblissant de la place déserte, puis descendant les allées et venues grouillantes mais hantées de peur de la colline parlementaire, jusqu'à retrouver les saines rues du centre et celles de briques du quartier de l'université qui y était comme sa maison. Pendant les jours qui suivirent, Blake ne parla à personne de son expédition. Au lieu de ça, il lut intensément certains livres, reprit les archives des journaux de la ville à propos de certaines années et travailla fiévreusement au cryptogramme de ce volume de cuir trouvé dans les toiles d'araignée de la sacristie. Son code chiffré, il s'en aperçut bientôt, n'était rien moins que simple. Et après une longue période de test, il était sûr maintenant que sa langue ne pouvait être ni anglaise, ni latine, ni grecque, française, espagnole, italienne ou allemande. Avec évidence, il aurait à se fier aux puits les plus profonds de sa bizarre érudition. Chaque soir, la vieille pulsion de regarder vers l'ouest revenait, et il distinguait de suite la flèche aveugle surgie des temps passés parmi tous les toits hérissés d'un monde distant et moitié fabuleux. Mais ce monde exerçait désormais sur lui une réelle sensation de terreur. Il savait l'héritage du folklore diabolique qu'il recouvrait, et par cela même sa vision se déchaînait dans des directions étrangement nouvelles. Les oiseaux du printemps revenaient, et tandis qu'ils suivaient leur boucle du crépuscule, il remarquait bien qu'ils évitaient la flèche austère et solitaire comme jamais auparavant. Quand un essaim d'entre eux en approchait, pensait-il, il s'en détournait et s'éparpillait dans une confusion panique, et il pouvait presque deviner leur gazouillement effrayé, qui ne pouvait cependant l'atteindre par-delà ces quelques kilomètres qui l'en séparaient. C'est en juin que le journal de Blake enregistra sa victoire sur le cryptogramme. Le texte, découvrit-il, était dans ce vieux langage utilisé par certains cultes diaboliques de l'Antiquité, la clo, et qu'il avait appris de façon hésitante lors de précédentes recherches. Mais son journal était étrangement mutique à propos de ce qu'il y avait déchiffré, alors qu'il était manifestement terrifié et déconcerté de ses découvertes. Il y faisait référence à « celui qui hante la nuit », éveillé lorsque l'on regardait à travers le trapézoédron rayonnant, et des conjectures insensées à propos de ces abîmes noirs du chaos depuis lesquels on l'appelait. Un être défini comme porteur de toute la connaissance, mais exigeant des sacrifices monstrueux. Plusieurs des notes de Blake prouvaient sa peur de la chose, qu'il semblait considérer comme maudite, le guettant depuis très loin, tout en ajoutant que les lumières des rues étaient un rempart qui ne pouvait être franchi. Il parlait souvent du trapézoédron rayonnant, l'appelant une fenêtre sur tous les temps et espaces, et retraçant son histoire depuis les jours où il avait été fabriqué sur la sombre Yougot, bien avant que les grands anciens l'apportent sur la terre. Il était devenu ce trésor placé dans son curieux étui par les êtres à crinière de l'Antarctique, sauvés de leurs ruines par les hommes serpents de Valousia, aperçu des éternités plus tard en Lémurie par les premiers êtres humains. il avait traversé d'étranges pays et d'étranges mers, et sombré avec l'Atlantide avant qu'un pêcheur minoen ne le retrouve dans ses filets et le revende à des marchands à la peau noire de la vaste Khem. Le pharaon Nefrenka bâtit tout autour de lui un temple avec une crypte murée, ce qui contribua à en effacer le nom de tous les monuments et registres. Et il dormit dans les ruines de ce tombeau diabolique que les prêtres du nouveau pharaon avaient détruit, jusqu'à ce que la pioche des détrousseurs le rajoute une fois de plus au fléau de l'humanité. Au début de juillet, les journaux fournirent bizarrement un complément aux notes de Blake, même de la façon brève et factuelle à quoi se limitaient leurs articles, en écho à l'attention générale. Il s'avérait que la peur gagnait à nouveau la colline parlementaire depuis qu'un étranger avait été vu dans l'église redoutable. Les Italiens évoquaient des frottements, vibrations, craquements et chocs inaccoutumés dans le grand clocher aveugle, et s'en étaient remis à leurs prêtres pour exorciser une entité qui hantait leurs rêves. Quelque chose, disaient-ils, veillait constamment devant les portes, au cas où il ferait assez noir pour se risquer à sortir. Les articles de presse précisaient que ces superstitions duraient depuis bien longtemps, mais ils évitaient de porter trop la lumière sur l'arrière-fond historique de l'horreur. C'est évident que les jeunes journalistes d'aujourd'hui ne sont pas des archivistes. En écrivant ses notes dans son journal, Blake exprimait un curieux sens du remords, disant que cela devenait un devoir d'enterrer le trapézoédron rayonnant et de bannir ce qu'il avait évoqué en laissant pénétrer la lumière du jour dans la hideuse saillie de la flèche. En même temps, cependant, il exprimait cette emprise grandissante d'une fascination dangereuse, reconnaissant son attirance morbide qui envahissait maintenant même ses rêves, en disant vouloir visiter la tour maudite et se pencher à nouveau sur les secrets cosmiques de la pierre lumineuse. Alors, le matin du 17 juillet, quelque chose dans la presse locale provoqua chez Blake une véritable poussée d'horreur. Ce n'était pourtant qu'une variante des autres articles mi-humoristiques à propos de l'agitation de la colline parlementaire, mais à lui, cela sembla tout de suite terrible. Dans la nuit, un orage avait provoqué une panne de l'éclairage urbain pendant une pleine heure, et dans cet intervalle obscur, les Italiens étaient devenus quasi fous de peur. Ceux qui vivaient près de l'église redoutée juraient que la chose dans le clocher avait pris avantage de l'absence d'éclairage public et était descendue dans la nef de l'église, s'agitant et cognant d'une façon à la fois visqueuse et redoutable. À la fin, elle avait gagné même la tour, où on avait entendu comme des bruits de verre brisé. Elle pouvait se répandre partout où régnait l'obscurité, mais la lumière la ferait toujours fuir. Quand le courant se rétablit à nouveau, il y eut un choc ou une commotion dans la tour, parce que même la faible lumière filtrant à travers les paravents et les persiennes obstruant les ouvertures, c'était trop pour la chose, qui avait bondi ou ondulé vers son clocher juste à temps. Une dose trop forte de lumière l'aurait renvoyé dans les abysses depuis lesquels cet étranger fou l'avait rappelé. Pendant l'heure d'obscurité, une foule en prière s'était rassemblée tout autour de l'église sous la pluie, avec des flambeaux allumés et des lampes qu'ils protégeaient comme ils pouvaient de papier huilé et de parapluies. Une ronde de lumière pour sauver la ville du cauchemar surgissant de la nuit. Au pire moment, disaient ceux qui vivaient le plus près, la porte extérieure de l'église avait été secouée hideusement. Mais ce n'était pas tout. Ce même soir, dans le bulletin municipal, Blake lut ce que les journalistes avaient découvert. Enfin alarmés par la valeur journalistique de cette rumeur saugrenue, deux d'entre eux avaient défié la foule frénétique des Italiens et s'étaient glissés dans l'église en rampant par l'ouverture de la cave, ayant essayé les portes en vain. Ils avaient trouvé la poussière du vestibule et de la nef spectrale labourée d'une façon singulière, avec des morceaux de rembourrage pourri et les cordons de satin des bancs éparpillés d'une drôle de manière. Une mauvaise odeur partout, et çà et là des morceaux de pierre jaunie et des parcelles qui semblaient carbonisées. Ouvrant la porte de la tour, marquant une pause un instant dans le doute d'un frottement ou d'un raclement au-dessus d'eux, ils découvrirent que l'étroit escalier en spirale avait été nettoyé de façon à peu près parfaite. La tour elle-même avait été pareillement à moitié nettoyée. Ils parlaient du pilier de pierre à sept pans, des chaises gothiques retournées et des bizarres figures de plâtre, mais étrangement, ni l'étui de métal ni le vieux squelette mutilé n'étaient mentionnés. Ce qui perturba Blake le plus, à part l'allusion aux pierres carbonisées et à la mauvaise odeur, c'était ce détail final qui expliquait le bruit de verre cassé. Chacune des fenêtres en ogive de la tour était brisée, et deux d'entre elles avaient été aveuglées d'une manière approximative et hâtive en les colmatant de ces cordons de satin et rembourrage des bancs dans l'espace entre les paravents obliques. D'autres fragments de satin et des bourres de crin avaient été abandonnés à même le sol juste nettoyé, comme si quelqu'un avait été interrompu dans la tâche de restaurer une obscurité absolue dans la tour, celle de l'époque de ses paravents opaques. Sur l'escalier menant à la flèche aveugle, on retrouva aussi des pierres jaunies et des parcelles carbonisées, mais quand un des journalistes y grimpa, ouvrant la trappe glissante à l'horizontale et projetant le faisceau de sa lampe dans l'espace noir et étrangement fétide, il ne décela rien que l'obscurité et le fouillis hétérogène de choses sans forme près de l'ouverture. Bien sûr, leur verdict fut la charlatanerie. Quelqu'un avait joué un bon tour aux habitants trop superstitieux de la colline, ou un des leurs, plus fanatiques, s'était débrouillé afin d'exciter leur peur pour leur bien supposé. Ou peut-être que quelques-uns des plus jeunes et à l'esprit moins rustre des habitants avaient imaginé une farce sophistiquée pour le monde extérieur. Et cela eut un prolongement amusant quand la police envoya un officier vérifier le reportage. Trois hommes trouvèrent successivement moyen d'échapper à la consigne, et le quatrième y entra avec beaucoup de réticence, en revenant très vite sans rien ajouter aux précisions données par les journalistes. À partir de ce moment, le journal de Blake indique une part progressivement montante d'horreurs insidieuses et d'appréhensions nerveuses. Il se réprimande de lui-même de ne plus rien entreprendre, et spécule sur les conséquences d'une nouvelle panne électrique. On a vérifié qu'à trois occasions, pendant les orages suivants, il avait téléphoné à la compagnie d'électricité d'une façon frénétique pour demander désespérément que toutes les précautions soient prises pour éviter une nouvelle coupure. Ici et là, ces notes s'interrogent sur l'impossibilité pour les journalistes de trouver l'étui de métal et la pierre, et le vieux squelette ainsi dévasté, lorsqu'ils avaient exploré la chambre obscure de la tour. Il se résolut à accepter que tout ça eût été enlevé, ou par qui et pourquoi, il pouvait seulement le deviner. Mais la pire de ses peurs le concernait lui, et l'espèce de rapport malsain qu'il sentait exister entre son esprit et la vague horreur dans le clocher si distant, cette monstrueuse chose de la nuit que son imprudence avait rappelée du fond ultime de l'espace nocturne. C'est comme si sa propre volonté, ressentait-il, était constamment prise en remorque, et ceux qui lui rendirent visite à cette période témoignent qu'il restait assis comme abstraitement à sa table, observant fixement par la fenêtre côté ouest le hérissement en spirale du mont par-delà les enveloppements de fumée de la ville. Ces notes tournent de manière monotone autour d'un certain rêve terrible et de comment se renforçait la part inavouable de son sommeil. Il y fait mention d'une nuit où il se réveilla brusquement pour se découvrir dehors, tout habillé, marchant avec automaticité en direction de l'ouest vers la colline parlementaire. et toujours revenant sur le fait que la chose dans le clocher savait où venir le prendre. On se souvient de la semaine suivant le 30 juillet comme celle de la dépression brutale de Blake. Il ne s'habillait plus et commandait toute sa nourriture par téléphone. Les visiteurs avaient remarqué les cordes qu'il maintenait près de son lit, disant que ses habitudes noctambules le contraignaient à se lier les chevilles chaque nuit par des nœuds qui résisteraient à l'effort de les défaire, ou du moins l'éveilleraient s'il le tentait. Dans son journal, il rend compte des expériences hideuses qui avaient provoqué son effondrement. Rentrant chez lui dans la nuit du 30, il se retrouva soudain tâtonnant dans un espace quasi noir. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était des raies courtes, horizontales, à peine visibles, mais il reconnut bien l'odeur fétide et surpuissante qu'il pouvait respirer, et ce curieux mélange de sons doux et furtifs qu'il entendait au-dessus de lui. Où qu'il se dirige, il butait sur quelque chose, et à chaque bruit répondait une sorte de son venu d'en haut, un vague frémissement comme un frottement prudent de bois sur du bois. À l'aveugle, ses mains rencontrèrent un pilier de pierre sans rien dessus, puis il se retrouva lui-même grimpant les marches d'une échelle taillée à même le mur, tâtonnant maladroitement pour se frayer un chemin incertain lorsque, à travers une couche de puanteur plus intense, une explosion brûlante s'abattit sur lui. Devant ses yeux, toute une gamme kaléidoscopique de figures fantasmatiques s'animèrent, chacune se dissolvant par intervalles dans l'image d'un vaste et insondable abîme de nuit, dans lequel des soleils et des mondes tourbillonnaient vers des profondeurs encore plus noires. Il pensa aux anciennes légendes du chaos ultime, au centre duquel se vautrait, aveugle et idiot, le dieu Azathoth, seigneur de toutes choses, entouré par une horde flottante de danseurs amorphes que berçaient les sons maigres et monotones d'une flûte démoniaque tenue par des membres sans nom. Alors une détonation aiguë, parvenue du dehors, vint briser sa stupeur et le réveilla en sursaut pour le placer face à l'indicible horreur de sa position. Ce que c'était, il ne sut jamais, peut-être les éclats tardifs de ces feux d'artifice entendus tout l'été sur la colline parlementaire, quand les habitants fêtaient leurs différents patrons ou saints, ou les saints de leur village natal en Italie. En tous les cas, il hurla de toutes ses forces, se laissa tomber comme un fou de l'échelle, farfouillant à tâtons à travers le plancher encombré de la pièce sans lumière qui l'enfermait. Il reconnut en un instant où il était, plongeant sans plus aucune prudence dans l'escalier en spirale, s'égratignant et se cognant à chaque tour. Suivit un survol de cauchemar à travers la nef emplie de toiles d'araignées, dont les arches fantomatiques semblaient se confondre avec le royaume d'ombre qui le lorgnait avec concupiscence. Une descente aveugle dans les ordures de la cave, remontant alors vers l'air et les lumières des rues du dehors, une course folle pour descendre les pentes spectrales de pignons ricanants à travers la ville grimaçante et silencieuse de grandes tours noires et remontant le précipice rude côté est jusqu'à sa propre ancienne porte. Revenant à la conscience le matin, il se retrouva étendu sur le plancher de son bureau, tout habillé. De la poussière et des toiles d'araignée couvraient ses habits, et chaque pouce de son corps semblait douloureux ou contusionné. Quand il se regarda dans sa glace, il découvrit que ses cheveux étaient sérieusement roussis, tandis qu'un reste d'une étrange et démoniaque odeur semblait s'accrocher à son pardessus. C'est alors que ses nerfs craquèrent. À partir de ce moment-là, vêtu seulement d'une robe de chambre, il ne fit plus rien que regarder à sa fenêtre vers l'ouest, frissonnant devant les menaces d'orage et rédigeant des notes détraquées dans son journal. La grande tempête se produisit juste avant minuit le 8 août. Des éclairs frappèrent en série tous les quartiers de la ville et on observa deux boules de feu remarquables. La pluie était torrentielle, le tonnerre comme une constante canonnade, causant l'insomnie de milliers d'habitants. Blake devint réellement fou de peur pour l'éclairage de la ville et tenta de téléphoner à la compagnie vers 1h du matin, parce qu'à ce moment le service avait été momentanément interrompu, simple mesure de sécurité. Tout cela, il le nota dans son journal, ces grands, nerveux et souvent indéchiffrables hiéroglyphes contant leur propre histoire d'une panique et d'un désespoir grandissant par ces notes griffonnées en aveugle dans le noir. Il devait garder la maison dans l'obscurité pour surveiller sa fenêtre, et il est manifeste que la plus grande partie du temps, il resta à sa table, scrutant anxieusement au travers de la pluie les kilomètres de toit scintillant du centre-ville dans la constellation de lumière lointaine là où était la colline parlementaire. Ça et là, il rajoutait une note rageuse à son journal, en général des phrases détachées comme « Les lumières ne doivent pas s'éteindre ». Il sait où je suis, je dois le détruire. Il m'appelle, mais peut-être pas pour me blesser maintenant. Voilà ce qu'on a retrouvé griffonné au bas des deux dernières pages. Alors, les lumières s'éteignirent sur toute la ville. Cela se passa à 2h12 du matin, selon les registres de la compagnie d'électricité. Mais le journal de Blake n'indique pas l'heure. Il note seulement « Extinction ». Que Dieu soit avec moi. Sur la colline parlementaire, on avait placé des volontaires tout aussi anxieux que lui, et des chaînes d'hommes trempés par la pluie arpentaient la place et les rues autour de l'église envoûtée, avec des flambeaux sous des parapluies, des lanternes électriques, des lampes à huile, des crucifix et d'obscures amulettes de toutes les sortes habituelles du sud de l'Italie. Ils bénissaient chaque source de lumière, mais de peur, ne purent que faire de la main droite leur signe crypté quand une saute de tempête fit s'amoindrir et finalement toutes cesser ensemble leur lumière. Le vent qui s'éleva souffla tous les flambeaux, et la scène entière sombra dans une obscurité menaçante. Quelqu'un réveilla le père Merluzzo de l'église du Saint-Esprit, qui se hâta de rejoindre la place lugubre pour prononcer toutes les invocations qu'il jugea pertinentes. De l'existence de frottements étranges et incessants dans la tour aveugle, il ne pouvait y avoir de doute. Sur ce qui se passa à 2h35, on a le témoignage d'un prêtre, quelqu'un de jeune, intelligent et bien éduqué, de l'agent de police William G. Monahan du poste central, un officier de grande confiance, qui, à ce moment de son service, s'était arrêté pour inspecter la foule, et de la plupart des 78 personnes qui avaient processionné autour du haut remblai de l'église, et surtout de ceux qui, sur la place, étaient en vue du côté est de la façade. Bien sûr, il n'y a rien qui ne puisse être prouvé comme étant en dehors de l'ordre naturel. Les causes possibles d'un pareil événement sont multiples. Personne ne peut parler avec certitude d'un obscur processus chimique qui se produirait dans un vaste et ancien bâtiment à l'air vicié, déserté de longtemps et rempli de bric-à-brac. Des vapeurs méphitiques, combustion spontanée, pression de gaz accumulée sur une longue période. N'importe lequel de ces phénomènes sans nombre peut en être responsable. Et bien sûr, le facteur d'une charlatanerie consciente d'elle-même ne peut en aucun cas être exclu. La chose fut d'ailleurs très simple par elle-même, et ne prit pas plus de 3 minutes de temps réel. Le père Merluzzo, un homme toujours précis, regarda régulièrement sa montre. Cela commença par un définitif crescendo de ce raclement morne et brinque-ballant dans la tour noire. il y avait eu depuis quelques instants une vague exhalaison d'odeurs étranges et diaboliques depuis l'église, et c'était devenu maintenant plus énergique et offensif. Il y eut enfin un bruit de bois éclaté, et un objet grand et lourd s'écrasa dans la cour sous la façade renfrognée de l'est. La tour était invisible, maintenant que les flambeaux ne brûlaient plus, mais quand l'objet atteignit le sol, les gens virent bien que c'était le paravent couvert de suie de la fenêtre est de la tour. Juste après, une odeur fétide parfaitement insupportable se répandit depuis le sommet invisible, étouffante et donnant la nausée aux volontaires effrayés, paralysant ceux qui étaient sur la place. Au même moment, l'air trembla comme de la vibration d'ailes battantes, et un vent d'est, soudainement plus violent encore qu'aucune des précédentes rafales, fit s'envoler les coiffures, se retourner les parapluies trempés de la foule. Rien de vraiment sûr ne put être observé dans la nuit sans lumière, même si quelques spectateurs au visage levé pensèrent avoir vu la masse indistincte d'un grand étalement de densité plus noir que le ciel d'encre. Quelque chose comme le nuage d'une fumée sans forme qui s'enfuit vers l'est à la vitesse d'un météore. C'est tout. Les volontaires étaient mi-hébétés de peur, crainte respectueuse, malaise, sans savoir ni quoi faire, ni même s'il fallait ne rien faire du tout. Ne sachant ce qui s'était passé, ils ne relâchèrent pas leur surveillance, et un moment plus tard, ils prièrent. Un éclat aigu d'une tardive lumière, suivi du bruit assourdissant d'un écrasement, déchira le déluge du ciel. Une demi-heure plus tard, la pluie s'arrêta, un quart d'heure supplémentaire et la lumière des rues se ralluma, renvoyant les volontaires épuisés et trempés à la maison. Les journaux du lendemain ne firent de ces faits qu'une mention minuscule dans le compte-rendu de la tempête. Il apparut que le grand éclair de lumière et l'explosion assourdissante qui suivirent l'événement sur la colline parlementaire avaient encore eu davantage de violence plus loin à l'est, où des bouffées de cette singulière odeur fétide furent aussi remarquées. Le phénomène fut encore plus marqué du côté de l'université, où l'explosion réveilla tous les habitants endormis et provoqua une suite endiablée de rumeurs et spéculations. De ceux qui étaient encore éveillés, seulement quelques-uns virent l'anormale flambée de lumière venue du sommet de la colline, ou remarquèrent l'inexplicable rafale de vent qui dénuda littéralement les arbres de leurs feuilles et dévasta les plantes des jardins. On convint que cette unique et soudaine décharge de foudre avait dû frapper quelque part dans le voisinage. Même après coup, on ne releva nulle trace d'impact. Un novice de la fraternité Tau Omega raconta qu'il vit une hideuse et grotesque masse de fumée dans l'air juste quand se produisit l'éclair préliminaire, mais on ne put corroborer cette affirmation. La totalité de ces quelques témoins, par contre, confirmèrent aussi bien cette bourrasque violente venue de l'ouest que ce flot de puanteur qui avait précédé l'éclair final. Et l'évidence à propos d'une odeur momentanée de roussi après la foudre fut tout aussi générale. On a discuté avec attention de tous ces points à cause de leur probable relation avec la mort de Robert Blake. Les étudiants de la cité Psi Delta, dont les fenêtres du haut, à l'arrière du bâtiment, donnaient sur le bureau de Blake, remarquèrent ce flou visage blême face à la fenêtre côté ouest le matin du 9, et s'était demandé ce qui n'allait pas dans son expression. Quand le soir ils aperçurent le même visage dans la même position, cela les préoccupa et ils attendirent que les lumières s'allument dans son appartement. Plus tard, ils vinrent sonner à la porte de l'appartement sombre et finalement un policier força la serrure. Le corps rigide était assis tout droit à sa table devant la fenêtre, et quand ceux qui étaient entrés virent les yeux vitreux exorbités et les marques d'une peur si forte et convulsive sur ses traits, ils firent demi-tour pris de nausée. Le médecin du coroner fit peu après son examen et indiqua, malgré la fenêtre intacte, qu'un choc électrique ou la tension nerveuse induite par un choc électrique était cause de la mort. L'expression hideuse, il l'ignora tout aussi bien, jugeant que ce n'était pas une conséquence improbable chez une personne vouée à une imagination aussi anormale et des émotions non raisonnées. C'est ce que le médecin déduisit plus tard des livres, peintures et manuscrits trouvés dans l'appartement et des notes gribouillées à l'aveugle dans le journal sur la table. Blake avait prolongé ses étranges gribouillages jusqu'à la fin, et on a retrouvé le crayon à la pointe cassée, serré dans sa main droite contractée par le spasme. Les notes qui suivirent la coupure de courant sont nettement incohérentes et seulement en partie lisibles. Certains enquêteurs s'en sont appuyés pour des conclusions différant grandement du verdict matérialiste officiel, mais de telles spéculations ont peu de chances de recevoir la confiance des conservateurs. Le cas de ces théoriciens imaginatifs n'a pas été amélioré par le geste du superstitieux docteur Dexter, qui prit le curieux étui et la pierre aux facettes, un objet certainement autoluminescent tel que celui vu dans le clocher sans fenêtre où on l'avait trouvé, et le jeta dans le plus profond courant de la baie de Narragansett. Une imagination excessive et un état nerveux non raisonné du côté de Blake, aggravé par sa connaissance des cultes diaboliques d'autrefois dont il avait découvert les traces d'un renouveau, ont formé l'interprétation dominante à propos de ces gribouillages frénétiques. Voici ces notes, ou tout ce qu'on a pu en reconstituer. Le courant est coupé. Ça doit faire 5 minutes maintenant. Tout dépend de la lumière. Yadith nous aide pour qu'elle revienne. Une influence semble vibrer par elle. La pluie et la tempête et le vent assourdissant. La chose absorbe mon âme. Perturbation de la mémoire. Je vois des choses que je n'ai jamais vues avant. D'autres mondes, d'autres galaxies. C'est noir. La lumière semble noire et le noir semble lumière. Ça ne peut pas être la vraie colline ni l'église que je vois dans le trou noir. Ça doit être l'impression rétinienne des éclairs. Le ciel veuille que les Italiens soient dehors avec leurs flambeaux si la lumière cesse. De quoi j'ai peur? Ce n'est pas d'un avatar de Nyarlathotep qui, dans l'antique et sombre Khem, prit forme humaine. Je me souviens de Yugoth, et encore plus loin de Chagai, et du vide ultime des planètes noires. Le long, le vol ailé à travers le vide. Ne pas traverser l'univers de la lumière. Recréé par les pensées recueillies dans le trapézoédron rayonnant. Les envoyer à travers les horribles abysses du rayonnement. Mon nom est Blake, Robert Harrison Blake, domicilié 620 Icknap Street, Milwaukee, Wisconsin. Je suis de cette planète. Azathoth, aie pitié. Il n'y a plus de lumière, horrible. Je peux tout voir, mais par un sens monstrueux qui n'est pas la vue. la lumière est le noir et le noir est lumière. Ces gens sur la colline, ils défilent, flambeaux et amulettes, leurs prêtres. J'ai perdu le sens des distances, le proche est loin, le lointain est proche. Pas de vitre, voir ce clocher, cette tour, fenêtre, je peux entendre. Roderick Usher, je suis fou ou devenant fou. La chose raclant et secouant dans cette tour, suis lui et il est moi, je veux partir, dois partir et réunir les forces. Il sait qui je suis. Je suis Robert Blake, mais je vois la tour dans la nuit. Il y a une odeur monstrueuse. Laissant se transfigurer, je m'embarque par la fenêtre de la tour. Ça craque. Le chemin est là. Il y a Guy Higg. Je le vois. Il vient. Vent d'enfer. Fracas de titans. Aile noire. Yog-Sothoth, sauve-moi. L'œil brûlant aux trois lobes.